Radio Okapi.
Okapi. 22 cas de décès maternel enregistrés depuis septembre 2021 à ce jour à Walendutati, dans le territoire de Djougou, en Ituri. En cause, le manque de personnel soignant qualifié et la carence des structures médicales, la plupart ayant été détruites par les hommes armés. Accident ferroviaire la nuit de jeudi à hier vendredi dans le territoire de Louboudi, province du Lualaba. Les sources officielles avancent un bilan provisoire de 60 morts au moment où d'autres parlent de plusieurs centaines de morts. Désiré Yuma, président provincial de la Croix-Rouge RDC Sud Kivu, est notre invité. Il va s'exprimer sur le rapport des activités 2020-2021 de cette organisation. Bonjour à tous. Ce journal part de l'Ituri. 22 cas de décès maternels sont enregistrés depuis le mois de septembre 2021 à ce jour dans le secteur de Walendutati, territoire de Djougou. Cette situation est liée au manque de personnel soignant qualifié, mais aussi à la carence des structures médicales dont la plupart sont détruites par les hommes armés. C'est le chef de secteur de Walendutati qui a fait ce constat après une mission effectuée dans la zone. Joël Mandé dit, et je cite, les Ituriens doivent désarmer leur cœur pour que cette province retrouve la paix. On l'écoute au micro de Jean-Claude Lokidile.
On a pu enregistrer au moins 22 mamans qui sont mortes seulement en donnant des enfants. Et ça, c'est horrible, puisqu'il n'y a pas un centre de santé, il n'y a pas les corps infirmiers, tout ça, à cause de l'insécurité. Et elles sont mortes seulement puisqu'elles donnent des enfants. C'est la césarienne, il n'y a pas moyen de faire la césarienne. Il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de corps soignants, il n'y a pas là où elles vont partir. Il faut vraiment intervenir. Il faut vraiment des structures existantes qu'on puisse remonter et puis assister à ces systèmes de structures, par exemple à Nyamamba, et puis à Datoulé, et puis même à Peigny.
Au sud Kivu, le PAM, l'UNICEF, la FAO ont procédé hier vendredi au lancement officiel dans la cité des Sangué, en territoire d'Uvira, du programme d'alimentation scolaire dans son volet éducation à la nutrition. Ce projet de cantine scolaire où les repas chauds est préparé et servi chaque jour à 19 000 écoliers issus de 54 écoles primaires de la zone de santé de la Ruzizi. D'après le chef de bureau du PAM à Bukavu, Francis Alain Béret, l'objectif est de renforcer la résilience socio-économique des petits exploitants agricoles et des populations vulnérables dans cette région de la plaine de la Ruzizi. Trois ministres provinciaux ont fait le déplacement à Sangué pour présider le lancement de ce projet. Fiston Goma nous fait le point.
Godelif Boulosé, sixième année primaire. Nous sommes à l'école primaire Moussaigne de Sangué. Il y a 2 ans, cette jeune fille, comme la majorité des colliers, avait brillé dans les absences, les retards et d'autres poussaient à l'abandon des classes. La pauvreté et la famine sont les principales causes de l'école buissonnière dans la Ruzizi. La première phase du projet des cantines scolaires a changé la tendance.
Ce projet a un impact positif aux parents et à nous-mêmes, car notre fréquentation à l'école est régulière. Et à manger à l'école, nous suivons les cours avec assiduité. Et ceci nous conduit à la réussite et dans le cadre économique, les coûts de dépenses journalières sont également allégés dans nos familles.
Ruzizi a été frappée par la sécheresse. Des cas de malnutrition ont été observés sur les enfants. D'après les sous-prophètes Uvira 2, Biamasu Kalembire, 12% d'abandon des classes ont été enregistrés les 2 dernières années dans les écoles primaires de la région. Grâce aux cantines scolaires, les effectifs sont récupérés et stabilisés. La FAO organise les jardins scolaires où l'on peut trouver des amarantes et aubergines pour varier les régimes alimentaires. Et l'UNICEF fait l'assainissement dans ces écoles. D'Uvira Fiston Mamayabala, Radio Okapi.
Plusieurs personnes ont péri dans un accident ferroviaire survenu dans la nuit de jeudi à hier vendredi dans le territoire de Louboudi, province du Lualaba. Les sources officielles avancent un bilan provisoire de 60 morts au moment où d'autres sources parlent de plusieurs centaines de morts. D'après certaines personnes, les passagers viennent aussi bien de Mweneditu dans la province de Lomami que des différentes gares par où ce train est passé. Le gouvernement provincial du Lualaba a dépêché sur les lieux du drame une forte délégation pour s'enquérir de la situation. Jusqu'à présent, les causes réelles de cet accident ne sont pas encore connues car les autorités de la SNCC sont restées injoignables. Jean Gandou.
Ce train marchandise venait de Mweneditu à destination de Lubumbashi. Il avait à son bord plusieurs passagers que la SNCC qualifie de clandestins car n'étant pas autorisés à prendre place à bord de ce train destiné au transport des marchandises. D'après les sources locales, l'accident a eu lieu aux environs de 23 heures entre les gares de Kitenta et de Buyofwe à une dizaine de kilomètres de Lubudi centre. Certaines sources rapportent que sept wagons s'étaient détachés de la rame avant de se retrouver dans un profond ravin avec tous ceux qui étaient à bord. D'autres renseignent que tout serait parti d'une détresse au niveau de la locomotive au moment où il fallait remonter la pente. Ayant échoué, la locomotive a fait marche arrière en vitesse. C'est alors que sept wagons sont tombés dans le ravin. D'après l'administrateur du territoire de Louboudi, jusqu'à présent, il y a 60 morts. Sept d'entre eux ont été récupérés par les membres des familles. 53 sont encore sur le lieu du drame. Les nombreux blessés ont été ramenés à l'hôpital de la Simon-Kata à Louboudi. Parmi eux, un bébé de moins de 2 ans dont les parents ont péri dans cet accident ferroviaire. Notons que d'autres sources avancent les bilans de plusieurs centaines de morts. Difficile pour l'heure de confirmer ces chiffres. Tous nos efforts pour avoir les responsables de la SNCC sont restés vains. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
En bref, au Nord Kivu, dans le procès ADF, le tribunal militaire de garnison de Beni a condamné hier vendredi à une peine de 15 ans de prison deux personnes, toutes de nationalité congolaise. La première, arrêtée en 2021, c'est Madame Kavuo Mayani, chef d'avenue au quartier Rwangoma à Beni, reconnue coupable de participation à un mouvement insurrectionnel. Et la deuxième, Kambale Mweki, un combattant ADF, reconnu coupable également de participation à un mouvement insurrectionnel. Paluku Mwami, poursuivi lui aussi pour participation à un mouvement insurrectionnel, a été acquitté faute de preuves. C'était au cours d'une audience publique organisée à l'auditorat militaire de garnison de Beni. Et puis, à Butembo, la position militaire située au quartier Matembe à la sortie ouest de la ville a été la cible d'une attaque d'hommes armés la nuit dernière. Le colonel Mosebo Epape Masebi, commandant ville de FRDC, qui confirme la nouvelle, indique que les militaires FRDC ont vite réagi à cette attaque attribuée à des Maïmaï non encore identifiés. Aucune perte en vie humaine ni des blessés à l'issue de ces échanges de tirs qui ont duré une trentaine de minutes. Le colonel Mosebo, qui avance ses bilans, affirme que la situation est sous contrôle des FRDC et que les dispositions sont déjà prises pour renforcer la sécurité dans cette partie de la commune Vulamba. Il appelle donc la population au calme et à dénoncer l'ennemi. Ici à Kinshasa, un homme a été assassiné hier soir au quartier CPA Mboudi dans la commune de Mongafula. D'après des témoins sur les lieux du drame et les membres de sa famille, il s'agit de Maître Désiré Takubajiré, avocat au barreau de Kinshasa Matete, qui a été tué par balle par deux hommes armés en tenue civile qui conduisaient une moto. Selon un membre de sa famille qui a témoigné au micro de Radio Okapi, l'avocat qui était accompagné de sa femme empêchait ses malfrats d'arracher le sac de son épouse quand l'un d'entre eux lui a tiré dessus avant de s'enfuir. On écoute son témoignage recueilli par Roger Moussangou.
Il était embrigadé vers 19h. Il était avec sa femme qui fait des petites activités vers pompage. Alors ils ont pris un taxi, arrivé au niveau du terminus de pompage. Le taxi ne pouvait pas continuer à cause des embouteillages. Ils sont sortis, ils ont continué à pied. De leur avenir, ils sont descendus, mais l'avenir était obscur. Un motard est passé devant, il s'est jeté sur sa femme pour prendre les sacs qu'elle avait au dos. Le motard était à deux. Quand on a cherché à tirer les sacs, l'homme a cherché à défendre sa femme. Ils ont réussi à tirer les sacs. Alors, comme l'homme cherchait à les empêcher, maintenant ils ont tiré sur lui. La femme avait déjà fui. Maintenant, on a tiré sur l'homme. La femme ne savait pas qu'on a tiré sur son mari. Elle a cru que son mari était entré dans l'enclos qui était à côté. Et c'est comme ça que l'homme ne faisait que perdre du sang jusqu'à ce qu'on l'a mené à l'hôpital vers 19h passé. Il était déjà mort. Il a eu des balles dans les fémurs.
Toujours à Kinshasa, les chefs religieux de la RDC ont signé hier un acte d'engagement afin de mettre un terme à l'esclavage moderne sous toutes ses formes. Cet acte d'engagement est une initiative de Global Freedom Network, une organisation internationale de droits de l'homme. Paul Matendo, reportage.
Global Freedom Network a mis en place une coalition de chefs religieux pour accélérer la fin de l'esclavage moderne. Selon cette organisation, l'esclavage moderne inclut la traite des êtres humains, la servitude domestique, les pires formes de travail des enfants, ainsi que le mariage forcé et précoce. Pour sa part, Monseigneur Nzinga de l'Union des Églises Indépendantes du Congo explique que ces pratiques sont multiples en RDC.
Le mariage est précoce. Si nous sommes à Kinshasa, on peut se parler de brutalité ou de qui détruit les autres, la vengeance, le tribalisme. Si nous sommes à Kinshasa, il faut plus parler de l'imposition du culte. Ça doit finir.
Pour y mettre fin, justement, Doudou Kamba, représentant légal de l'Église des Réveils du Congo, ajoute qu'à ce jour, ils prennent l'engagement de dénoncer toutes les formes d'esclavage moderne.
Nous nous engageons pour dénoncer également des actes qui se font dans ce sens. Et nous disons aujourd'hui, ceci rencontre également nos prérogatives en tant que pasteur.
Global Freedom Network estime que les chefs religieux peuvent être un pont entre les victimes et les forces de l'ordre, les travailleurs sociaux et les groupes de soutien aux victimes.
Au Nord Kivu, la sous-station de la RTNC Béni n'est toujours pas en onde depuis bientôt 3 ans. C'est depuis 2019 qu'elle a cessé d'émettre après son déguerpissement du bâtiment appartenant à un particulier pour insolvabilité. Selon le chargé de l'administration et finances de ces médias publics, la RTNC Béni n'est pas en mesure d'accompagner ce jour le gouvernement dans ses actions en cette période de l'état de siège, bien que disposant d'un terrain vide et du matériel de diffusion. John Maté l'a dit à André Kitenge.
La RTNC à Béni n'est pas en train d'émettre parce qu'évidemment elle n'a pas un bâtiment où elle doit émettre. C'est ça le problème. Parce qu'avant, en 2014, nous étions déjà installés dans une maison d'un particulier. Mais c'est arrivé un moment où il a demandé à ce que l'État puisse honorer ses engagements vis-à-vis de lui par rapport au contrat qu'on avait, la RTNC et les particuliers ou les bailleurs. Et c'est arrivé qu'il a demandé que nous puissions cesser les activités. Et comme les gouverneurs de la province à l'époque nous avait déjà donné une parcelle. Il fallait maintenant qu'on aille s'installer à notre propre parcelle qui se trouve à diagonale de l'hôpital général. Alors, il fallait maintenant un accompagnement des autorités locales et provinciales comme nationales. Et jusqu'à maintenant, ça fait 5 ans que la RTNC n'est pas en ligne. Nous ne sommes pas en train d'accompagner les gouvernements tels que notre ligne éditoriale les demande pour que nous puissions accompagner le gouvernement dans ses actions. Surtout que nous sommes dans les opérations et aussi accompagner les temps de siège.
Contacter le porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu d'y être au courant de ce problème. Le général de brigade Sylvain Ikenge indique que toutes les dispositions sont déjà prises avec le ministre des tutelles afin de relancer les activités de la RTNC Béni, mais aussi Boutembo et Rutshuru.
Actualité internationale.
Washington a annoncé hier vendredi prendre des sanctions économiques à l'encontre des 2 personnes et 3 entités russes accusées d'avoir soutenu la Corée du Nord dans ses 2 essais récents des missiles présentés comme des tests de lancement d'un satellite. La Corée du Nord continue de tirer des missiles balistiques en violation flagrante du droit international, ce qui constitue une grave menace pour la sécurité mondiale, a déclaré le sous-secrétaire américain au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier Brian Nelson, qui précise que ces sanctions répondent à cette menace en ciblant un réseau d'individus et d'entités basés en Russie, complices d'avoir aidé la Corée du Nord à se procurer des composants pour ses systèmes de missiles balistiques illégaux.
L'invité.
La situation humanitaire dans la province du Sud Kivu n'est pas bonne. Une situation exacerbée par les conflits entre groupes armés, surtout dans la partie sud de la province. C'est Désiré Yuma, le président provincial de la Croix-Rouge RDC au Sud Kivu, qui l'a dit lors de la présentation du rapport des activités 2020-2021 de l'organisation. Il revient sur les grandes réalisations et les défis à venir de la Croix-Rouge RDC au Sud Kivu. Désiré Yuma s'entretient avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Désiré Yuma, bonjour.
Bonjour.
Quelles ont été les réalisations de la Croix-Rouge Sud Kivu au cours de l'année 2020 et 2021?
Oui, en tant qu'une société nationale humanitaire, nos activités ont été plus le secours lors des épidémies Ebola et Covid. Et là, nous étions dans les trois zones de santé de la ville de Bukavu et la zone santé de Minova. Nous étions aussi dans la zone santé de Mwenga et Kamituga. C'était plus la sensibilisation au Covid et les mesures barrières, mais également, c'était de gestes lorsqu'il y avait une victime. Par rapport à la ville de Bukavu, nous étions positionnés au centre de transit au niveau de l'entrée Bagira.
Vous êtes un acteur humanitaire majeur. Est-ce que vous pouvez actuellement décrire la situation humanitaire qui prévaut dans la province?
La situation humanitaire en province n'est pas bonne, hein, par rapport à deux situations. D'abord, la première situation, c'est lié au conflit armé, surtout dans la partie sud-sud que Uvira et Fizi, mais aussi la partie nord, donc le haut plateau d'Uvira, mais aussi le haut plateau de Mwenga et Fizi. Donc il y a beaucoup de déplacés liés à ces conflits et qui sont dans l'extrême besoin. Et jusque-là, beaucoup d'humanitaires continuent à rechercher comment les prendre en charge. L'autre situation, ce sont les différentes catastrophes qui dérangent ici.
Par catastrophe, c'est quoi? Ce sont les catastrophes naturelles?
Je parlais des catastrophes naturelles. C'est plus aussi à Uvira et dans la ville de Bukavu. Ces catastrophes rendent notre travail difficile et les moyens ne suivent pas. Et l'autre situation humanitaire qui dérange, ce sont les différents accidents compte tenu de l'état de nos routes. Et donc chaque jour, nous sommes appelés à intervenir en cas d'accident. Les moyens ne suivent pas pour qu'on soit vraiment prêt à intervenir dans les délais qu'il fallait.
Ce contexte humanitaire qui est assez instable, volatile, cela n'entrave pas la bonne marche de vos interventions?
Si ça entrave, il faudrait nos partenaires, bien sûr aussi le gouvernement, nous dote plus de moyens, notamment les ambulances, notamment les intrants, notamment les vivres et les abris pour les déplacer.
Quels sont aujourd'hui les grands axes d'intervention prioritaire de la Croix-Rouge au Sud Kivu?
Pour le moment, nous sommes dans quatre zones de santé, notamment la zone de santé de Uvira, Nundu, Minova, un peu Mitimures, là c'est dans la lutte contre le choléra. Et nous sommes aussi dans la ville de Bukavu. On intervient moins à l'ouest de la province, donc Walungu et Mwenga, compte tenu des moyens limités, comme je disais.
Votre intervention ne porte que sur le secteur médical?
Non, pas du tout. Hein, pas du tout. À Uvira, en dehors de ce qui est épidémie, nous sommes là-bas avec deux grands volets. Notamment la construction des abris pour les déplacés suite à l'inondation du 7 avril de 2021, mais aussi à la montée des eaux du lac Tanganyika. Mais nous sommes aussi là dans la réhabilitation du centre de santé à Uvira.
Alors, ce rapport d'activité que vous venez de présenter aujourd'hui, c'est aussi une manière pour vous de faire une auto-évaluation. Qu'est-ce qui peut constituer l'une des faiblesses de la Croix-Rouge au Sud Kivu?
Oui, je l'ai dit, la première faiblesse par rapport à nos interventions, nous n'avons pas les moyens logistiques nécessaires, mais également on n'a pas les moyens financiers nécessaires. Voilà pourquoi j'ai continué à appeler au bon sens des bonnes volontés qui voudront, bien sûr, nous appuyer. Ce sont des faiblesses connues.
Pour terminer, quelles sont les grandes orientations stratégiques pour cette année?
Pour que l'autonomie de la Croix soit assurée, nous sommes en train de mettre en place des activités qui génèrent des ressources. Notamment à Sangé et à Minova, nous sommes en train de construire des écoles. À Fizi, comme à Baraka, à Nundu et à Uvira, nous sommes en train de construire des centres d'accueil. Si s'est achevé. Les humanitaires ou autres personnes voudront loger chez nous et ça va nous aider à avoir une autonomie financière.
Vous voulez être moins dépendant des bailleurs?
Exactement, c'est ça notre lutte. Au stade où nous sommes, nous dépendons à 90% de bailleurs de fonds, ce qui n'est pas correct. On voudrait réduire cette dépendance. Sinon, si nous dépendons de totalement, vous comprenez qu'une fois les coupes, on sera dans des difficultés de travail.
Désiré Yuma, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Désiré Yuma, président provincial de la Croix-Rouge RDC au Sud Kivu. Il s'entretenait avec Cynthia Bachizi Nabizana. Et c'est par ici que prend fin ce journal, coordonné par Noëlla Luzitu Kabambi, Kisiki et Pierrot et la Menji, Alain Goy, la mise en onde. Je suis Jocelyne Moussaou. Merci de nous avoir suivis.